voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. Dans cette saison d'émission radio, Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence et du sens pour pas à pas vivre le changement nécessaire à nos sociétés. Bertrand Bernard, éditeur, jardinier, conférencier, écrivain et homme à multiples casquettes, rencontre avec cet amoureux de la vie et du vivant. L'émission s'appelle « La voix du Kaizen ». Dans cette série d'émissions, le thème est l'agriculture, la paysannerie au sens large. Et je rencontre différents producteurs, paysans, maraîchers, avec différentes techniques, l'agroécologie, l'agroforesterie, la permaculture, la biodynamie. Et avec moi, Bernard Bertrand. Donc je vais te laisser peut-être te présenter et t'introduire.
Aïe, aïe, aïe. Bonjour. Ben, j'ai eu plusieurs vies, moi. Donc celle qui va nous intéresser le plus ici, je pense, c'est celle de paysan, fils d'agriculteur redevenu paysan. Donc j'ai travaillé sur une toute petite ferme, selon des principes que effectivement tout le monde appelle aujourd'hui la permaculture. C'est comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, hein, c'en était sans que ce soit nommé ainsi. Donc une petite ferme traitée de façon dans sa globalité, sur laquelle j'essayais d'être le plus autonome possible dans mon mode de fonctionnement.
Fils d'agriculteur redevenu paysan, pourquoi est-ce que tu as fait le choix de la paysannerie ?
Pour suivre la personne avec qui je vivais à l'époque, parce qu'autrement je n'étais pas forcément destiné justement à redevenir paysan, puisque ce que j'avais vécu au lycée agricole et la façon dont je voyais l'agriculture évoluer autour de chez moi ne me plaisait pas du tout. C'était donc la grande agriculture qui était en train de pointer son nez à une vitesse grand V, donc j'avais absolument aucune envie de replonger là-dedans.
Et pourquoi ? Est-ce que tu avais déjà conscience des ravages qu'elle faisait sur les écosystèmes, la Terre et la planète ? Comment ça se fait que toi, tu n'aies pas voulu reproduire ce schéma qui était apparemment familial ?
Alors, il n'était pas vraiment familial. Mon père était un petit agriculteur. Il n'avait pas une très grosse ferme, il avait une sensibilité pro-nature assez prononcé, même s'il n'était pas agriculteur bio. Si j'étais resté avec lui, il m'avait proposé de transformer la ferme en ferme en agriculture biologique. Mais moi, je voyais déjà, parce que j'étais amoureux des oiseaux, je passais mon temps à courir les oiseaux, à faire de la chasse photo à l'époque, et je voyais le marais dans lequel j'avais passé mon enfance, le marais de Rochefort dans lequel j'avais passé mon enfance, à vélo, à la poursuite des piafs, et puis toutes les haies commençaient à disparaître sous le coup du remembrement et tout ça. Donc je voyais à quel point effectivement l'agriculture telle qu'elle était enseignée au lycée agricole et telle que je la voyais évoluer autour de chez moi en Charente-Maritime était destructrice de ce que j'aimais, de ce que j'avais envie de vivre et de connaître, qui était effectivement une nature plus sauvage, moins humanisée et dans laquelle effectivement je puisse voir des oiseaux et des insectes et des plantes et plein de choses comme ça.
Donc tu deviens un paysan, j'aimerais que tu me définisses ce terme qui pendant très longtemps a une connotation plutôt négative. Donc qu'est-ce que c'est que pour toi paysan ? Comment tu l'expliquerais ?
Bon, simplement, hein, c'est quelqu'un qui vit dans un pays, mais qui vit au sens qu'il est capable d'être en équilibre avec ce qui se passe autour de lui. Et pour moi, c'est quelque chose d'important, c'est quelqu'un qui va apporter une richesse au pays dans lequel il vit, c'est pas quelqu'un qui détruit le pays dans lequel il vit. Et toute la différence entre le paysan et l'agriculteur ou l'exploitant agricole, c'est qu'il y en a un qui détruit son outil de travail en particulier, si on ne pense qu'au sol déjà, mais aussi les haies et tout ça. Alors que l'autre, effectivement, il entretient un paysage, il utilise à bon escient les ressources qu'il y a autour de lui. Et il est dans un schéma où on est toujours en train d'apporter quelque chose, quoi. On fait plus qu'entretenir un paysage. On vit sur le paysage, on l'exploite. Par exemple, un exemple tout simple, une haie chez un paysan, elle va être entretenue, il va servir son bois de chauffage dedans, il va aller ramasser peut-être des plantes qui sont comestibles dedans. Un exploitant agricole, il va plutôt couper la haie parce que ça emmerde son tracteur. Voilà, je crois qu'avec cet exemple-là, on peut comprendre déjà beaucoup de choses, quoi. C'est deux mentalités différentes, c'est deux approches différentes. Il y en a un qui veut faire de l'argent avec son outil de travail, et l'autre pour qui l'outil de travail représente quelque chose qu'il faut respecter, avec lequel il faut conjuguer, et qui lui permettra de vivre, mais de vivre longtemps et de transmettre à ses enfants quelque chose qui sera au moins aussi riche que ce qu'il a trouvé lui quand il s'est installé.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Pour en revenir à l'histoire, donc là on parle d'agriculteurs ou d'exploitants agricoles, des paysans, mais avant l'exploitant agricole et avant l'agriculteur, il y avait déjà le paysan. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans l'évolution? Pourquoi est-ce que la paysannerie s'est transformée en agriculture?
Oh, alors ça c'est une vaste question. On ne sait pas pourquoi les chasseurs-cueilleurs sont devenus agriculteurs ou paysans. À l'époque, on ne parlait pas trop de paysans. On dit qu'ils sont devenus agriculteurs. On sait pas vraiment. Il y a un contexte socio-économique qui fait que et puis l'évolution de l'espèce humaine, l'évolution peut-être des sphères dominantes des sociétés humaines font qu'on a pris ce chemin. Il y avait ce mirage que pouvait représenter le progrès technologique avec tout ce qu'il a ramené. Il y a eu des contraintes aussi politique, hein. Il faut savoir que l'agriculture française a tourné le dos à la paysannerie juste après-guerre, avec le plan Marshall, qui a permis aux agriculteurs d'acquérir des tracteurs pour trois fois rien, et puis d'avoir un rapport à la nature dans laquelle ils vivaient, de domination beaucoup plus forte. Voilà, c'est compliqué, hein, de détailler tout ça, mais je crois que c'est ça, c'est un changement, un rapport différent, mais un changement social fort. Et une envie, sans doute, sans comprendre le sens que ça pouvait avoir et les conséquences que ça aurait, cette envie de plutôt aller vers ce qu'on appelait un progrès, ce qu'on pensait être un vrai progrès, qui finalement était un faux progrès, puisque quand la paysannerie est passée, le paysan est devenu agriculteur, il a bossé beaucoup plus et il gagnait beaucoup moins. Il travaillait beaucoup plus pour le Crédit Agricole, pour les banques d'une manière générale, que pour que son propre bénéfice. Tout ça, c'est un système qui s'est mis en place de façon insidieuse, poussé aussi par les syndicats agricoles, hein, le syndicat majoritaire. En France, c'est depuis longtemps, c'était la FNSEA. C'est d'abord un syndicat qui était mis en place par les céréaliers. C'était les seuls paysans qui pouvaient se payer un ouvrier agricole et qui, eux, pendant ce temps, allaient faire les réunions. Mon père, agriculteur exploitant laitier, a jamais pu payer quelqu'un pour traire ses vaches à sa place et aller participer aux réunions des syndicats agricoles, tandis que les céréaliers avaient tous cette facilité-là. L'agriculture française a été orientée par les céréaliers, non pas du tout par quelque chose qui aurait pu être démocratiquement établi sur l'avenir, où tout le monde aurait réfléchi ensemble sur l'avenir, ce que devait être l'avenir de l'agriculture et tout ça. C'est juste une poignée de personnes qui ont créé un syndicat agricole hyper puissant et qui ont donné cette orientation industrielle à l'agriculture. Et à partir de ce moment-là, c'était foutu, quoi. À partir du moment où on est passé d'une agriculture familiale à une agriculture industrielle, on n'a pas su revenir en arrière. Et aujourd'hui, on le paye très très cher.
Mais certaines personnes ont conscience des dérives de l'agriculture et font un petit peu ce retour en arrière. Non, j'observe autour de moi plein de gens qui se lancent dans des projets de maraîchage ou des projets paysans un peu partout sur les territoires.
Tout à fait, oui, tout à fait. C'est très intéressant. Et effectivement, quand je me suis installé, moi je me suis installé sur 2 hectares en polyculture élevage. C'était considéré comme pas rentable et pas viable par l'administration. Donc ils nous mettaient des bâtons dans les roues comme c'est pas possible. Mais en m'entêtant, j'ai réussi quand même à vivre ce parcours pendant 20 ans, à élever mes enfants sans rien demander à personne et à créer toutes les richesses que j'ai créées après derrière grâce à cette toute petite ferme au départ. Aujourd'hui, ce modèle-là, donc à l'époque ce modèle-là était décrié, pas connu, pas du tout reconnu. Aujourd'hui, ce modèle-là est reconnu. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les micro-fermes. Et effectivement, il y a de plus en plus de jeunes qui s'installent, et c'est heureux, sur des toutes petites exploitations, en refusant les contraintes administratives. Ben voilà, et c'est comme ça qu'on a les mains libres, hein, qu'on n'est pas pieds et poings liés avec un système. Et ils arrivent à faire de très très belles choses, et en particulier en maraîchage, mais pas uniquement.
Et pour tous les jeunes qui cherchent à s'installer, il y a quand même ce problème de l'accès au foncier.
Ah oui, de plus en plus, comme l'accès au foncier, c'est vrai aussi pour le bâti, pour la maison, c'est vrai aussi pour les terres. Il y a une mainmise des agriculteurs, des gros agriculteurs, avec des trucs. Mais ça, voilà, il n'y a qu'une volonté politique qui pourrait faire changer ça, quoi. La volonté politique, c'est à nous de l'initier, mais comment, c'est pas simple du tout. Hein. On voit bien, on est capable de recevoir des milliers de tonnes de pesticides sur nos têtes sans que le peuple ne bouge vraiment. On se demande comment c'est possible. On a toute une profession qui empoisonne tout le pays et on peut pas l'empêcher. C'est quand même très étonnant, quoi. C'est contre tout bon sens. C'est contre tout bon sens.
Et pourtant, il y a quand même des lanceurs d'alerte. On le sait aujourd'hui qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assise. Pourquoi est-ce qu'on continue ?
Les lanceurs d'alerte sont quand même minoritaires, ils dérangent. Parce qu'il y a toute cette notion de rentabilité qui fait que on préfère foncer tête baissée. Et puis cette utopie aussi qui fait croire aux gens que le progrès nous sortira d'affaire. C'est comme si on avait le droit de faire toutes les conneries possibles et inimaginables. De toute façon, c'est pas vrai. Le progrès nous sortira d'affaire, ce qui est complètement faux, bien sûr. Mais c'est quand même une idée qui est très répandue dans la société et surtout dans les gens qui n'ont pas les pieds sur terre, qui sont pas en contact direct avec l'agriculture. Mais il y a même des agriculteurs qui sont convaincus que ça aussi. Hein. Donc c'est effectivement très compliqué. J'ai pas de solution toute faite de ce côté-là.
Et est-ce qu'il y a un dialogue entre les agriculteurs, où tu parlais d'exploitants agricoles, et ceux qui essayent de faire autrement ?
Moi, j'ai un peu quitté le monde agricole déjà depuis quelques années, mais je crois que c'est très difficile. Il y a des clivages qui sont... C'est une autre façon de penser, c'est d'autres paradigmes. Je crois que les ponts sont très, très, très ténus et très ponctuel, et quand il y en a, c'est souvent des accidents, c'est-à-dire un agriculteur qui va s'empoisonner en mettant le nez au-dessus de sa cuve de pesticides, là il va peut-être réfléchir, et encore pas tous, hein. On a des exemples de gens comme ça qui ont eu à souffrir directement des produits qu'ils utilisaient sur leur ferme et qui n'ont jamais fait le lien de cause à effet. C'est très curieux, hein, mais c'est très perturbant même, hein. Mais c'est une réalité, quoi. Et c'est les ponts entre les deux. Un agriculteur sur son gros tracteur de 200 chevaux avec tous les équipements modernes, la Wi-Fi et tout dans son tracteur, il peut pas comprendre un petit paysan qui va travailler avec 2 hectares, labouré avec un cheval. Non, il peut pas le comprendre. Il y a trop d'écart, quoi. Il y a quand même des changements d'attitude, heureusement, parce que le consommateur demande autre chose aussi, et parce qu'il y a de plus en plus de scandales qui éclatent. Donc grâce à ces scandales, on sait très bien que la vache folle nous a fait gagner des années de combats militants. La disparition des abeilles aussi, avec les produits phytosanitaires, même si c'est pas réglé, loin s'en faut. Mais c'est vrai que des catastrophes comme ça nous font gagner des fois plus de temps que des années de militantisme, c'est sûr. Et là, les politiques, ils sont obligés de réagir quand l'opinion publique s'émeut et prend la parole de façon un petit peu plus vindicative que d'habitude.
Les abeilles, tu me lances sur le sujet, donc comment est-ce que tu en es arrivé à l'apiculture, ou en tout cas à l'abeille ?
Alors les abeilles ont fait partie de ma petite exploitation agricole dès le début, hein, puisque l'idée c'était d'être en autonomie. Donc dès les années, je me suis installé en 77, un an ou deux après j'avais 4-5 ruches. Ça, tout s'est très bien passé jusqu'à l'arrivée du varroa, un parasite qui a complètement ruiné la plupart des ruches de France et de Navarre, et surtout si on voulait pas traiter avec de la chimie. Après, pendant 10-15 ans, j'ai arrêté d'avoir des abeilles et je me suis remis à voir les abeilles en m'intéressant à leur habitat, à leurs problématiques et en faisant des ruches. J'ai recommencé à faire des ruches en vannerie et après j'ai voulu à nouveau y mettre des abeilles dedans et voir ce qui se passait, comment ça se passait.
Et
gros point d'interrogation, on est en plein dedans. Donc très très clairement, la réflexion voilà, la réflexion que j'ai menée m'a poussé à comprendre qu'effectivement, l'apiculture telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, c'est sans doute la première discipline de l'agriculture qui a été industrialisée. C'est-à-dire que l'apparition de la ruche à cadre dans les années 1850, les grandes ruches carrées à cadre, qui sont le fait d'inventeurs industriels, hein, Monsieur Dadan, qui a donné son nom à cette ruche, à l'une de ses modèles de ruche, était un industriel américain. Il a tout fait pour exploiter de façon le plus rationnelle possible l'abeille, et il a très très bien réussi. Ça a très bien marché pendant un siècle, et c'était effectivement un siècle avant l'industrialisation de l'agriculture. C'est curieux, un insecte, un animal, je veux dire, un cheptel, les apiculteurs parlent de leur cheptel, qui était encore très sauvage, puisqu'à l'époque, les abeilles étaient, même si on l'appelait l'abeille domestique, elle n'était pas du tout domestiquée. Hein, elle vivait sa vie, elle profitait des ruches que mettaient à sa disposition les apiculteurs. En échange, les apiculteurs lui prenaient du miel, mais pas des grosses quantités. Donc c'était tout à fait raisonnable, il y avait une vraie complicité. Et l'apparition de la ruche carrée à cadre a fait voler en éclats tout ce principe-là. Et à partir de ce moment-là, l'apiculteur a été de plus en plus exigeant et a de plus en plus demandé de rendement à ses abeilles. Et à partir de ce moment-là, on en a fait une espèce d'usine à produire qui a super fragilisé l'espèce abeille, et qui fait qu'aujourd'hui, on en est arrivé à des niveaux de pertes dans les ruchers qui sont tout à fait extraordinaires, parce qu'on n'a pas laissé évoluer correctement cet insecte, et on ne l'a pas laissé s'adapter au changement qu'il a dû subir.
Donc avoir mis l'abeille dans une ruche à cadre, hein, comme on l'a tous dans l'imaginaire collectif, on imagine tous la ruche carrée avec dedans effectivement des cadres, donc ça c'est quelque chose qui a été mis en place pour exploiter l'abeille, et donc c'est pour ça que tu t'es dirigé vers une autre forme de ruche.
Alors ça c'est pour rationaliser effectivement la production de miel et des produits de la ruche, et pour moi c'est l'un des facteurs qui a contribué à la fragilisation de l'abeille, qui explique qu'aujourd'hui les abeilles elles en peuvent plus, et soit elles disparaissent, soit elles désertent carrément les ruches. Et la réflexion, c'était effectivement en les remettant dans des habitats naturels plus proches des ruches sauvages, comme par exemple les troncs d'arbres, hein, les ruches troncs, ou les ruches en vannerie, qui sont des habitats qui sont très très proches de l'habitat naturel de l'abeille, leur redonner une chance de, sans les exploiter, donc sans soutirer le miel. C'est le principe de la ruche de biodiversité ou de la ruche de conservation. Donc de leur redonner une chance de s'adapter à nouveau aux changements qui sont en train de se produire aujourd'hui.
Tu parlais au début de cette émission du varroa. Hein, tu as arrêté l'apiculture à l'apparition du varroa. Tu t'y es remis des années plus tard en essayant d'expérimenter une autre manière de créer des ruches. Mais tu disais que voilà, enfin c'est multifactoriel la disparition des abeilles. Est-ce que tu peux me présenter les différents aspects ?
Le plus connu, et c'est une réalité, hein, ça reste les pesticides, effectivement. Empoisonner les abeilles comme on le fait en déversant des milliers de tonnes de pesticides sur nos terres, c'est quelque chose de complètement aberrant. C'est exceptionnel que l'abeille résiste. On sait très bien que les oiseaux sont en train de disparaître de la même façon. Et nous aussi, on retrouve ces produits-là, ces produits poison, toxiques, tête de mort, on les retrouve dans notre assiette. Donc ça, on sait déjà que c'est pas le top. En plus, l'apiculteur, il peut être amené à mettre aussi de la chimie dans ses ruches, quand justement pour détruire ce fameux varroa, il utilise des acaricides, qui sont des produits encore plus toxiques que les insecticides, parce que les acariens sont beaucoup plus costauds et résistants que les insectes. Donc on est dans une espèce de spirale infernale où l'abeille n'est pas du tout respectée. Donc l'idée, c'est de créer des conditions où justement, on arrêterait de ne la voir que comme une pompe à fric, pour parler vulgairement, et où on la respecterait un petit peu plus en lui offrant un habitat et des conditions de vie qui soient beaucoup plus acceptables et qui lui permettent de s'adapter.
Aujourd'hui, Bernard, qu'est-ce que tu fais ? Comment tu occupes ton temps ?
Mais j'occupe mon temps d'une drôle de façon qui me plaît, je ne peux pas dire que ça ne me plaît pas, mais qui m'inquiète quand même un petit peu, c'est que je passe de plus en plus de temps en voyage, en déplacement, en conférence, en rencontre et tout ça, et c'est fabuleux parce qu'il faut effectivement, je sens aussi qu'il y a une attente et un retour que j'avais jamais ressenti avant, hein, sur ces interventions qu'on peut faire partout en France et même à l'étranger. C'est usant et du coup c'est un petit peu à l'opposé du rêve de vie que j'avais au départ. Donc, j'aimerais bien recentrer sur un petit peu plus de terrain, un petit peu plus de pratique, retoucher un petit peu plus la terre que je ne le fais aujourd'hui, même si je sais que c'est pas facile, mais j'aimerais bien revoir un petit peu ma copie moi aussi et me recentrer un petit peu plus sur moi-même.
Aujourd'hui, je te rencontre sur le festival organisé par Cocopelli, les tambours de Gaïa. Donc, tu es intervenu sur
les ruches de biodiversité.
Qu'est-ce que tu as raconté ?
Que les abeilles avaient juste besoin qu'on leur fiche la paix. Juste ça. Si on veut pas perdre les abeilles, il faudrait juste les laisser un petit peu tranquilles. Arrêter de les surprésurer pour produire toujours plus, oui, effectivement. Arrêter de leur déverser des produits chimiques sur la tête à tour de bras. Arrêter de détruire leur environnement, arrêter de détruire les arbres dans lesquels elles nichent ou des choses comme ça. Le côté multifactoriel de la chose, il est à tout ce niveau-là, quoi. Destruction de milieux, appauvrissement des famines pas possibles. Aujourd'hui, les abeilles, quand elles sont sur des surfaces de plusieurs centaines d'hectares où c'est une seule plante qui est cultivée, c'est comme nous si on ne mangeait que des nouilles, quoi. Au bout d'un moment, on tomberait vite malade, hein. 5 fruits et légumes par jour, c'est vrai aussi pour les abeilles. Au moins 5 sources de pollen différentes pour les abeilles par jour, si on veut qu'on ait des abeilles en bonne santé et qui soient résistantes et qui résistent aussi aux agressions environnementales qu'on leur fait subir.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Pour ceux qui s'intéressent à cet hyménoptère et qui veulent se lancer dans l'apiculture, quel conseil donnerais-tu à...
Si c'est pour une apiculture de production, j'ai pas de conseil à donner. Moi, je veux sortir de ce type d'apiculture-là. Si on veut sauver les abeilles, si on continue de demander à nos abeilles de produire du miel, du pollen, de la gelée royale, etc., etc., on va perdre les abeilles, c'est clair. On est dans un schéma de production et où aujourd'hui, on a tellement industrialisé cette discipline. On tue les reines tous les ans pour les remplacer. On est dans un schéma qui est hyper destructeur. Donc si l'apiculture continue comme ça, dans 10 ans, à mon sens, il n'y a plus d'apiculture. C'est pas du tout ça qui m'intéresse. Moi, ce que je veux encourager, c'est exactement la même chose que j'encourage et que sur lequel j'ai toujours encouragé en agriculture, c'est un petit modèle d'exploitation familiale dans lequel il y a de la place pour 3-4 ruches, 5 ruches. Et si un petit apiculteur veut avoir 30 ruches, ça sera jamais un revenu principal. Il faut que ça reste quelque chose de secondaire et il faut qu'on donne aux abeilles le minimum de respect auquel elles ont droit. Arrêter de les nourrir rien qu'avec du sucre. Je l'ai dit, déverser des produits chimiques dans la ruche, les déplacer à tout bout de champ, parce que bien évidemment c'est du stress. Enfin, d'une manière générale, arrêter tous les stress qu'on leur fait subir, ça serait déjà bien. Donc c'est plus une apiculture respectueuse de l'abeille que j'appelle de mes voeux, plutôt qu'une apiculture productrice, parce que je pense que ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. On est allé trop loin dans la surexploitation de ce pauvre insecte que on voit très très bien qu'il est en train de disparaître et très très vite, quoi.
Mais quand tu parles de disparition des abeilles, on a tous en tête cette phrase de Einstein, enfin je sais pas si c'est lui qui l'a dit ou pas, que si l'abeille disparaît quelques années plus tard, c'est l'humanité qui est en danger.
Alors, si l'abeille toute seule disparaît, c'est comme si l'ours des Pyrénées disparaît, hein. La terre continuera de tourner. Si l'abeille disparaît, il y a énormément de pollinisateurs. Je pense qu'on va perdre beaucoup de productivité dans nos grandes cultures. Donc le schéma industriel va s'effondrer encore un petit peu plus vite. Ça serait peut-être pas plus mal. Mais ce qui est sûr, c'est que si on n'est pas capable de sauver les abeilles, effectivement, l'espèce humaine est menacée parce que tout... Ça veut dire qu'on n'est pas capable de gérer un environnement sain qui puisse nous permettre d'évoluer correctement. L'abeille, comme nous, comme l'ours, comme d'autres animaux, font partie d'une chaîne alimentaire. Si cette chaîne elle est fragilisée, si on en perd un maillon, deux maillons, trois maillons, c'est toute la chaîne qui va s'écrouler. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. La perte de biodiversité, c'est juste ça, quoi. C'est rien d'autre que ça.
Donc toi, sur une échelle humaine, tu l'observes autour de toi, cette perte de la biodiversité?
Ah bah, oui, à l'échelle de ma vie, c'est, c'est tellement flagrant et décourageant que oui, on ne peut que le constater, quoi. Et encore, j'ai la chance d'habiter dans un environnement privilégié où le matin encore, quand je me lève, il y a énormément d'oiseaux qui chantent. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'il y a énormément d'oiseaux qui chantent autour de moi, mais j'arrive à reconnaître les chants d'oiseaux. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'était une telle cacophonie quand on se réveillait le matin chez nous qu'on n'arrivait même pas à reconnaître les oiseaux tellement c'était un cafouillis indescriptible. Aujourd'hui, il y a toujours beaucoup d'oiseaux, mais beaucoup moins qu'avant quand même.
Pareil pour les espèces que tu vois dans les prés autour de chez toi ?
Alors les plantes, c'est un petit peu différent, dans la mesure où... Donc aujourd'hui, c'est mon fils qui a repris l'exploitation agricole, en bio, donc elle a toujours été en bio. Le couvert végétal reste très riche et très diversifié. On a aussi on avait fait faire une étude sur les hyménoptères, justement, au jardin botanique dont on s'occupait il y a quelques années. On a aussi de très bons... on a aussi une très belle biodiversité de ce côté-là. Mais il n'empêche qu'elle s'appauvrit quand même de jour en jour, parce que ça vient pas de la nature du paysage ni des herbes qu'elles vont consommer, sur lesquelles elles se nourrissent, mais ça vient de la pollution ambiante qu'on se prend comme tout le monde. Les Pyrénées, on est sous les dominantes des vents de sud-ouest, nord-ouest, et ça, toute la merde qui était pendue sur l'Aquitaine tombe sur les Pyrénées sous forme de pluie. Il pleut beaucoup plus dans les Pyrénées qu'en Aquitaine. Hein. Et tout ce qui est déversé sur le sol, il y en a 20 à 80% qui part dans l'atmosphère et qui tombe sous forme de pluie sur les Pyrénées. Donc on n'est pas à l'abri de tout ça, et la biodiversité animale en souffre terriblement aussi dans les Pyrénées. Les abeilles, nos abeilles meurent aussi dans les Pyrénées, alors qu'il n'y a aucun traitement chimique dépendu à grande échelle chez nous.
Sur la population française, il y a moins de 20% qui est rural, qui vit dans les campagnes. Le reste vit dans les grandes villes ou dans les villes et n'a pas forcément conscience de ce qui est en train de se passer autour de nous. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à celui qui écoute cette émission radio, et comment est-ce qu'on peut, nous, en tant que citoyens lambda, agir au quotidien ?
Vaste programme. Mais déjà, encourager toutes les initiatives qui maintiennent justement l'équilibre. La nature, on y est étroitement associé. On ne peut pas vivre sans la nature. On a beau artificialiser les choses, ça ne nous donne qu'une vision partielle de notre rapport à l'environnement. Et si on détruisait toute cette nature, on sait très bien qu'on aurait beaucoup de mal à vivre. Je ne sais pas comment aider les gens à prendre conscience de ça. Et leur dire quoi pour faire, mais il faut d'abord qu'ils en aient conscience. Une fois qu'ils auront conscience, après ils vont consommer différemment. Donc après, ce sera sans doute un bon pas en avant de fait. Mais comment faire en sorte qu'ils en prennent conscience? Il faut qu'ils aillent dans la nature un peu plus souvent. Ça peut pas se faire tout seul. Et je comprends qu'il y a une coupure entre la ville et la campagne qui soit de plus en plus importante. Et l'artificialisation des choses, il y a de plus en plus de gens qui pensent qu'on peut vivre sans nature, parce qu'effectivement, ils ne sont jamais confrontés à la nature. Ça fait 2000 ans que la nature fait peur et c'est pas prêt de s'arranger.
Qu'est-ce qui effraie l'homme ? Pourquoi on a peur de la nature ? Qu'on essaye systématiquement de la contrôler ?
C'est juste son côté incontrôlable, justement. On essaie de la contrôler parce qu'on n'accepte pas qu'elle soit incontrôlable. Et la nature, par essence et par nature, elle est incontrôlable. On le voit bien avec la météo, les simples phénomènes météo, on ne supporte pas qu'il pleuve 3 jours de suite. C'est la nature, les paysages sont verts parce qu'il pleut. Si c'était les sécheresses permanentes, et peut-être qu'on va subir des épisodes de ce type dans les années à venir, on va pleurer nos printemps pluvieux, c'est sûr. Être dans l'acceptation, accepter les choses, comprendre les cycles naturels des choses, oui, ça fait partie des conseils à donner. C'est tout un travail personnel à faire pour retrouver cet équilibre.
Donc se reconnecter à un essentiel.
C'est exactement ça.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine.